sur Moment 3.
Il y a 3 mois, depuis que l'Agence des Nations Unies pour la population vole au secours des femmes victimes de viols pendant la période des guerres dans les territoires des DKC. Ce premier programme concernait 280 femmes, dont certaines avec des cas de fistules vaginales. Mais à son exécution, le programme a été débordé, vu le nombre des cas qui étaient jusque-là non identifiés. Pour aller au bout, l'Agence des Nations Unies pour la population vient de solliciter et obtenir une prolongation du projet pour 6 mois de plus. Cette deuxième tranche, déjà en cours, se bite aux difficultés de mobilité tant du personnel que des intrants. Alors, comme nous l'avons dit en début, Basile Bakoumbane s'est penché sur la question. Basile, vous êtes en ligne. Pouvez-vous brièvement nous présenter on va retrouver Basile Bakoumbane. Donc, je rappelle qu'il y a 3 mois depuis que l'Agence des Nations Unies pour la population vole au secours des femmes victimes de viols pendant la période de guerre dans les territoires des DKC. Ce premier programme concernait 280 femmes, dont certaines avec des cas de fistules vaginales, mais à son exécution, le programme a été débordé. Basile Bakoumbane est en ligne avec Basile. Nous allons d'ailleurs traiter ces sujets. Et déjà, nous vous rappelons aussi nos deux numéro pour participer à cette émission, le 081 070 20 50 pour les SMS et le 081 890 63 94 pour les appels. Basile Bakoumbane, puisque vous êtes déjà en ligne, pouvez-vous brièvement nous présenter la carte postale du territoire des DKC à ces jours?
Oui, JR, commençons par situer ces coins de la province. DKC est l'un de 10 territoires qui composent la province du Kassai Occidental. Il est situé en pleine forêt équatoriale, à 470 km au nord de la ville de Kananga. Il partage donc de frontières avec la province de l'Équateur, celle du Bandundu et le Kassai oriental. Jadis, accéder à DKC était facile par bateau, par petit porteur et par route en traversant par bac sur la rivière Sankuru et la rivière Lokeni. Mais depuis la première guerre de 1904-97, toutes ces voies ont été endommagées par le belligérant qui voulaient couper la voie à leurs adversaires. Depuis lors, DKC est resté enclavé et coupé du reste du monde. Il s'en est suivi la misère, qui à son tour a entraîné la destruction de plusieurs infrastructures existantes, et les conquérants qui avaient élu domicile se sont permis le tout sous la violation des droits de l'homme. Et là, les femmes ont été victimes de plusieurs sortes de violences.
Alors, pouvez-vous nous citer, entre autres, ces sortes de violences faites aux femmes à DKC?
Il faut comprendre qu'après avoir coupé des caissés du reste du monde, chaque occupant régnait un maître. Là, les viols de femmes devenaient un loisir et aussi une autre façon d'humilier les autres. Les femmes servaient de transporteuses des effets de guerre sur de longues distances à pied. Les femmes n'ont fait que souffrir donc pendant tout ce temps, comme nous dit encore Fidèle Lola, qui est président du comité des ressortissants de décaissés à Kananga.
Pendant la guerre, une seule femme pouvait être violée par autant de militaires. Cela a fait que les femmes violées sont restées malades, d'autres pouvaient, les urines pouvaient couler sans fin, et d'autres continuaient à saigner pendant beaucoup d'années là. C'est seulement quand cela s'est allé qu'elle est intervenue pour certains cas. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de cas, mais on est juste intervenu pour un petit nombre de cas.
Mais pourquoi depuis lors l'intervention ne vient que maintenant pour elle?
Il faut avouer que l'enclavement de DKC avait presque totalement étouffé le cri de détresse qui n'arrivait nulle part jusque-là. Mais quand ça pouvait arriver, même quand ça pouvait arriver auprès des hommes de bonne volonté, il y avait un problème qui se posait, c'est ce problème d'accessibilité qui persistait toujours, donc il était très difficile d'atteindre DKC. Il avait surtout fallu attendre peut-être la fin de la guerre pour que l'information dépasse les frontières de DKC, qui, jusqu'aujourd'hui, manque même un seul réseau de télécommunications. C'est ce que nous dit encore Fidèle Lola.
C'est juste après la guerre, il y a eu une circulation et les gens commençaient à raconter ce qu'ils ont vécu, raison pour laquelle nous sommes informés de tout cela. Nous avons pu à la radio, nous avons entendu notre voix et il y a eu aussi des rapports de la part des agents de l'hôpital de DKC, des rapports de services de sécurité, tout à fait que l'opinion internationale a été saisie de ce cas-là.
Alors Basile, comment les bénéficiaires apprécient-ils les 3 premiers mois de ce programme?
Oui, comme je le disais tout tantôt, il faut commencer par dire que l'accessibilité à DQC est vraiment difficile pour tout le monde. Nous, nous avons peut-être encore un peu de chance parce que de temps en temps, il y a l'hélicoptère de la MONUC qui y va. Mais pour cette information, il nous a été encore très difficile de voir directement les concernés qui ont eu tous ces soins. Mais toutefois, il nous arrive de temps en temps de recouper les informations avec l'association des ressortissants de ces coins qui accueille souvent le frère qui vient de décaisser. Et sur tout ça, nous avons retenu que le programme est bien apprécié. Mais il se pose toujours la question de proportion de moyens engagés par rapport au travail abattu. Le souci de tous est que les moyens disponibles soient utilisés rationnellement pour bien répondre aux besoins réels du coin. C'est le même souci que nous osons comprendre dans les discours de ceux qui exécutent ce projet. Mais déjà, pour ceux-là qui exécutent le projet, il se pose un problème. Le problème qui persiste et qui est toujours là, c'est le problème de mobilité, le moyen de transport, de mobilité pour atteindre surtout les autres victimes qui sont dans des coins et recoins éloignés du territoire de DQC-JR.
Voilà, Basile Bakoumbane, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur le nombre de cas de violence déjà enregistrés au niveau des DQC, parce que vous avez mené cette enquête?
Oui, le nombre de cas, c'est peut-être difficile à dire pour l'instant, mais le nombre de cas déjà traités, parce qu'on disait que le premier programme avait visé 280 femmes, et arrivé sur place, l'expert de l'UNFPA qui était là, a vu qu'il y avait tellement de cas qu'au premier tour, ils en ont traité déjà 318, parmi lesquels il y a eu 54 interventions chirurgicales, dont une trentaine avec le cas des fistules vaginales. Et à ce jour, ils ont formé les relais communautaires et d'autres personnes qui sont en train de retrouver d'autres cas et identifier d'autres cas. Et le cas sont en ce moment nombreux. Mais je crois que c'est notre invité qui pourra peut-être nous donner les détails là-dessus.
Voilà, avec vous, Basile Bakoumbane, on s'arrête là et on se retrouve très prochainement.
Merci.
Hi, my name is Bob and I work at my job. I make $40-something a day. I used to be the man in my hometown until I started to lose my way. It all goes back to when I dropped out of school, having fun, I was living the life. But now I got a problem with that little white rock, see I can't put down the pipe. And it is breaking me down, watching the world spin around while my dreams fall down. Is anybody out there? It is breaking me down. No more friends around, and my dreams fall down. Is anybody out there? Can anybody out there hear me? 'Cause I can't seem to hear myself. Can anybody out there see me? 'Cause I can't seem to see myself. There's gotta be a heaven somewhere. Can you save me from this hell? Can anybody out there feel me? 'Cause I can't seem to feel myself. Losing my way. Oh, I keep losing my way. Oh, I keep losing my way. Can you help me find my way? Losing my way. Oh, I keep losing my way. Oh, I keep losing my way. Can you help me find my way? Now you gotta understand, I was a family man, I would have done anything for my own. But I couldn't get a grip on my newfound itch, so I ended up all alone. I remember where I was when I got my first pussy, I thought I was living the life. And the craziest thing is I'll probably never know the color of my daughter's eyes. And it is breaking me down, watching the world spin around while my dreams fall down. Is anybody out there? It is breaking me down. No more friends around, and my dreams fall down. Is anybody out there? Can anybody out there hear me? 'Cause I can't seem to hear myself. Can anybody out there see me? 'Cause I can't seem to see myself.
Samuel Topango, je rappelle que vous êtes un expert de FUNIAP. Vous avez suivi le point que venait de nous faire notre confrère Basile Bakumbane. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé FUNIAP à pouvoir se lancer dans ce programme qui concernait 280 femmes victimes de violences sexuelles à DKC?
Oui, merci. Vous savez que le Fonds des Nations Unies pour la population assure le leadership dans les volets médico-sanitaires de l'initiative conjointe de prise en de prévention et de réponse aux violences sexuelles à la République démocratique du Congo. Et dès que notre organisation a été saisie, nous étions dans l'obligation de descendre sur le lieu parce que ça annonçait vraiment une catastrophe humanitaire et l'organisation a mis les moyens pour qu'on puisse aller prendre en charge d'une manière urgente ces milliers de femmes.
Donc on peut dire que la situation est vraiment très alarmante?
Oui, parce que nous sommes partis avec une prévision d'au moins 270 femmes qui ont été préalablement identifiées et répertoriées. Et en 2 mois et demi que nous sommes sur le terrain, moi je viens de là il y a pratiquement 3 semaines ici, nous sommes déjà arrivés à soigner au moins 318. Et la plupart des cas que nous avions soignés, ce sont des cas des infections sexuellement transmissibles. Et vous savez, pour les soins des infections sexuellement transmissibles, selon les protocoles de PNMLS ou de PNLS, les infections se soignent en deux ou en plusieurs. Et en réalité, sur les 318, nous avons des victimes mais qui ont des contacts et des partenaires qu'il faudra appeler et les soigner. Et en réalité, nous sommes vraiment en train de soigner presque 1 000 000 de gens.
Est-ce que vous pouvez dire que la prise en charge des victimes des violences sexuelles à DKC est vraiment bien assurée par le FUNIAP au jour d'aujourd'hui?
Oui, sur le terrain, la prise en charge est bien assurée parce que nous avons eu, dans le cadre du projet, informé des prestataires locaux en prise en charge médico-sanitaire, dans les domaines de counseling pour les victimes de violences sexuelles, dans les domaines de la santé et de la reproduction en général. Les problèmes se posent parce que, bon, nous sommes partis avec une prévision, mais nous sommes presque vraiment débordés compte tenu de l'ampleur de la situation sur le terrain. C'est le problème de l'acheminement des médicaments pour le moment, des questions qui se posent pour le moment.
Donc, vous voulez dire que la prolongation du projet pour 6 mois de plus, c'est justifié ou c'est justifié?
Oui, le projet, bon, vous avez les projets d'assistance humanitaire, ce sont des petits projets qui vont juste pour répondre à l'urgence. Mais là, je suis très content que la hiérarchie de l'UNFP ait pensé à ajouter encore 6 mois, compte tenu de la peur de la situation sur le terrain. Et ce qui reste à faire est qu'on puisse encore déployer des moyens pour que les efforts qui sont fournis sur place à DKC puissent être intensifiés.
Alors, que comptez-vous faire réellement dans les 6 mois qui vous ont été accordés?
Oui, dans les 6 mois, présentement, parce que ça fait 3 semaines que je suis ici, nous sommes en train de chercher un transporteur aérien qui puisse acheminer les produits à DKC. Sur place ici à Kananga, nous n'avons pas trouvé un transporteur aérien. cette charge, elle est maintenant entre notre bureau à Kinshasa, qui est en train de prendre contact pour trouver un transporteur aérien qui fasse un port aérien directement à Kinshasa de Kessé pour amener une charge de médicaments qui sont déjà entreposés dans nos dépôts. C'est ce qui est vraiment un problème crucial, du moins pour le moment. Mais nous sommes rendus compte aussi que la plupart des victimes que nous touchons, que nous sommes aujourd'hui, ce sont des victimes qui sont sur place dans la cité de l'administration territoriale, alors que Kessé est vaste, plus de 25 000 km², plus de 138 villages, 19 aires de santé.
Oui, mais là, on nous a signalé qu'il y a un problème de mobilité.
Oui, oui, c'est-à-dire que Kessé, il faut alors entrer dans de grandes agglomérations comme Idoumbé, Doumba, Bololo, pour atteindre d'autres victimes qui sont retranchées là-bas. Bien sûr, on a eu à informer des prestataires qui sont dans des centres de santé de référence de ces coins, mais il faudra qu'il y ait des relais communautaires qui fassent un peu ce qu'on appelle la sensibilisation, la recherche active pour canaliser ces victimes vers les structures de prise en charge.
Est-ce que des relais communautaires sont déjà mis sur pied?
Oui, le relais communautaire existe, mais il faudra vraiment le former dans le domaine des violences sexuelles. Parce que, bon, une victime de violence sexuelle, ce n'est pas n'importe comment qu'on peut l'aborder, c'est quelqu'un qui a plusieurs problèmes. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier avec notre bureau pour que une formation soit faite au relais communautaire et en plus les doter de moyens techniques et d'action pour qu'ils puissent amener bien ce travail.
Nous imaginons que c'est un grand projet. Est-ce qu'on peut estimer ça à combien, son coût?
Oh oui, la première phase de 3 mois a été estimée à 150 000. Là, je peux dire que les activités ne sont pas encore terminées. Compte tenu de la situation liée aux difficultés de l'environnement, il y a certaines activités qui sont en train d'être continuées. Par exemple, pour l'activité prise en charge des cas de fistules, nous sommes prévus qu'il fallait opérer au moins 50 fistules. Et nous avons déjà opéré au moins 38 cas de fistules avec 16 cas d'autres pathologies que les fistules. Et nous avons un problème d'amener encore l'équipe opératoire qui est allée faire ce travail. Et là, notre organisation a pensé que non, il fallait former des prestataires locaux pour la prise en charge d'une manière permanente des fistuleuses. Ce qui fait qu'actuellement, il y a des contacts avec une organisation qui est spécialisée dans la matière à Goma pour que deux prestataires puissent aller se spécialiser dans ce domaine et revenir à décaisser parce qu'à ce moment, aux dernières nouvelles, il y a une vingtaine de fistuleuses qui attendent la chirurgie réparatrice.
Donc vous avez parlé des 150 000 $ pour 3 mois?
Oui, ça c'est la première phase, mais les activités ne sont pas encore terminées. Dans ce budget, il y a d'autres activités qui continuent.
Oui. Ben alors, on a comme l'impression que vous êtes vraiment ancré dans la prise en charge médicale et la prise en charge psychologique de victimes de violences sexuelles, c'est comme si c'est un peu négligé.
Non, ce n'est pas négligé parce que, bon, nous, le projet, selon l'intitulé du projet, prise en charge médicale. Notre organisation est beaucoup plus spécialisée dans la prise en charge médico-sanitaire. Il y a ce qu'on appelle une structure qu'on appelle l'initiative conjointe. Dans l'initiative conjointe, il y a plusieurs volets de prise en charge. Il y a psychosocial, réinsertion, intégration, soutien économique, judiciaire, tout ça. Et c'est à partir de la phase de la prise en charge médico-sanitaire, les autres volets vont venir. Et je suis heureux d'apprendre que le plan quinquennal de prévention et de réponse aux violences sexuelles est adopté. Et je suis certain que Dekessé pourra être intégré dans ce projet pour la prise en charge holistique.
Donc toutes sortes de prises en charge pour le montant, dans le montant des 150 000 concernés, pour le montant des 150 000 dollars?
Non, j'ai bien dit que la prise en charge médico-sanitaire concernait la première phase, un projet d'urgence qui prenait au moins pendant, qui est échéancier pour 3 mois. et la prise en charge holistique, il faudra mobiliser d'autres moyens pour qu'on puisse prendre les problèmes dans sa globalité.
Alors la situation dans d'autres coins périphériques de la cité de Dékessé se présente de quelle manière ou comment se présente-t-elle? Est-ce que vous pouvez nous faire une idée là-dessus par rapport aux victimes de violences sexuelles? Vous en avez une idée vous-même?
Oui, une idée, ça veut dire que si on répare une pédale historique, on voit que Dékessé a été touché dans toute son étendue. Et il y a des grandes agglomérations qui détiennent des grandes quantités de population, par exemple Doumba, Idoumbé, Bololo. Et Doumba, par exemple, est situé à 160 km, est plus peuplé que les sièges de l'administration territoriale. Et dans ces agglomérations, si on voit dans l'historique, il y a même des factions armées qui ont érigé leurs états-majors là-bas. Ce qui fait que la situation qui nous est rapportée de ces zones fait état qu'il y a plusieurs victimes qui sont encore retranchées et qui n'ont pas encore accédé aux soins.
Donc là, c'est au niveau de Doumba et au niveau d'autres agglomérations?
Oui, j'ai bien dit que Dékessé a été touché dans toute son étendue, dans d'autres agglomérations, Bossango, tout ça, il y a beaucoup de victimes qui, par des difficultés de voies de communication, ne parviennent pas à accéder dans les structures des appropriées pour les soins de prise en charge.
Alors donc, comptez-vous vraiment atteindre toutes ces personnes dans ces projets?
Oui, pour la première phase, nous sommes certains que notre organisation qui est sous le leadership dans ces volets médico-sanitaires va encore mobiliser des moyens pour qu'on puisse atteindre ces victimes. Il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse les négliger. Elles sont déjà stigmatisées, marginalisées dans la communauté et nous sommes disposés à aller vers elles et les mobiliser vers la prise en charge.
Docteur Samuel Topango, nous rappelons que vous êtes expert de l'UNFPA, autrement dit de FUNUAP, pour la ville de Kananga, si je ne me trompe.
Je ne suis pas pour la ville seulement. Il est vrai qu'il y a une antenne de UNFPA à Kananga, c'est l'antenne pour les cancers occidentaux. Je suis pour tous les cancers occidentaux.
Voilà, tous les cancers occidentaux, c'était bien de le préciser. Alors, il faut également préciser à nos auditeurs que Dékessé est l'un des 10 territoires qui composent la province du Kasaï occidental. Et nous rappelons qu'il est situé en pleine forêt équatoriale. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a de nombreuses femmes qui ont subi des fistules vaginales. On en parle aujourd'hui, mais bon nombre ne savent pas ce que c'est. C'est quoi exactement une fistule vaginale?
Oui, c'est peut-être pas le sujet du jour. Une fistule, c'est en quelque sorte un terme un peu communautaire. C'est une communication anormale entre les voies génitales et les voies urinaires, ce qui fait que la femme qui en souffre perd d'une manière involontaire et permanente les urines à tout moment. Elle est obligée d'être garnie par des chiffons, des habits pour se protéger des pertes des urines continuelles.
Alors, quand est-ce que cela arrive? Parce que bon, il est bon quand même de préciser une chose. S'il y a eu ce problème, c'est que ces femmes ont été violentées, n'est-ce pas?
Oui, il y a plusieurs causes pour la survenue des fistules. Il y a des causes liées aux violences sexuelles. Il y a des causes obstétricales et des causes chirurgicales.
Mais pour le cas de ces femmes que vous encadrez, elles ont été violentées alors qu'elles étaient dans la forêt équatoriale, puisque Dékessé s'est situé dans la forêt équatoriale.
Oui, oui, Dékessé est situé dans la forêt équatoriale. La plupart des fistules qu'on a connues sont aussi dues aux violences sexuelles, oui.
Et ces femmes ont été violentées par des éléments en uniforme. Elles vous l'ont dit parce que vous êtes avec elles pratiquement tous les jours. Vous êtes en contact avec elles. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit concrètement dans cette prise en charge psychosociale?
Oui, dans la technique d'interview, nous sommes arrivés à déceler que les victimes ont dû citer les hommes armés, hommes armés en général. Vous comprenez que par hommes armés, on comprend que ce soit l'armée régulière ou l'armée rebelle, tout homme en armes. C'est ce que
les victimes nous ont dit.
Aujourd'hui, nous précisons que vous êtes, vous encadrez 280 femmes, dont certaines avec des cas de fistules vaginales. Il y en a pas, c'est pas toutes les femmes qui ont ce problème-là, mais en tout cas un bon nombre. Et vous avez dit qu'aujourd'hui vous êtes submergé dans votre travail parce que tous les jours on vous amène de nouveaux cas de fistules vaginales, n'est-ce pas?
Oui, oui. Il y a à ce moment, je viens de dire tout tantôt que il y a au moins une vingtaine qui attendent des
patients. Qui attendent encore.
Qui attendent encore, oui. La première phase de cette prise en charge chirurgicale a eu lieu au mois de décembre. Pendant deux semaines, on a dû opérer au moins 38 cas.
Alors, ne pensez-vous pas qu'il faut parer au plus pressé, docteur Samuel Topango, parce que nous savons que FUNUAP, UNFPA, s'occupe surtout de la formation psychosociale des prestataires locaux. Vous l'avez fait dernièrement. Vous vous occupez également de la prise en charge des personnes victimes. Mais maintenant, il faut parer au plus pressé. Il faut s'occuper de la prise en charge judiciaire. Parce que bon, aujourd'hui, vous en cadrer des femmes, vous vous occupez de ces femmes, vous opérez un bon nombre de femmes, mais demain il y aura encore d'autres cas. Alors maintenant il faut attaquer le problème à la base, à la racine même.
Oui, je viens de dire un peu avant qu'il y a un plan quinquennal qui est adopté où on prend en charge toutes ces éventualités. Pour le moment, comme il y avait un problème d'urgence, et nous sommes allés avec un projet d'urgence, et un projet d'urgence amène souvent à un pôle de décision. C'est ce qui fait que notre organisation, compte tenu de l'ampleur de la situation, a jugé bon de maintenir et de pérenniser d'abord le projet, ce qui fait voir qu'on va vers une décision d'une prise en charge holistique.
Alors, docteur Samuel Topango, est-ce que le FUNUAP a-t-il bénéficié de la collaboration des autorités locales?
Oui, parce que bon, la plupart des projets que les organisations mettent en œuvre, c'est en appui aux structures officielles et locales. Ce qui fait que c'est l'inspection médicale provinciale avec représentée par les médecins chefs des zones de DQC que nous sommes en train de mettre en place ce travail.
Alors parlons du volet judiciaire, c'est aussi dans vos prérogatives, n'est-ce pas?
Non, c'est-à-dire que directement, pas directement. Il est bien sûr que les UNFP assurent le leadership et la coordination de l'initiative conjointe, et dans l'initiative conjointe, on voit aussi le volet judiciaire. Et ce sont des choses qui sont prévues avec ce que je viens de dire, l'adoption du plan quinquennal, tous ces aspects de problème.
Donc vous voulez dire que vous n'avez pas encore concrétisé le volet judiciaire?
Oui, nous n'en sommes pas encore à cette phase. Nous sommes encore à la phase d'une prise en charge médico-sanitaire qui paraissait au plus pressé.
Parce que là, vous risquez d'être débordé tous les jours. On signale des cas de violence sexuelle, des cas de viol. Alors bon, les auditeurs, surtout les femmes, se disent, bon, alors quand est-ce qu'on va mettre derrière les verrous tous ces violeurs, tous ces bourreaux qui commettent des viols tous les jours? Parce que sinon, on forme un cercle vicieux et on n'en finit pas. Vous demandez de l'aide aujourd'hui parce que vous êtes débordé. Mais bon, à quand la fin de ces violences? L'idée serait que vous puissiez vous battre afin de mettre derrière les verrous toutes ces personnes qui commettent des actes de violence.
Oui, c'est le problème est pris dans sa globalité par notre organisation et avec les autres partenaires de l'initiative conjointe. Et dans l'initiative conjointe, il y a le Haut Commissariat des droits humains qui va veiller à cette éventualité d'une prise en charge judiciaire, oui.
Voilà, docteur Samuel Topango, je rappelle que vous êtes expert auprès de FUNUAP. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons peut-être vous retrouver très prochainement.
Merci beaucoup.